Mercredi 2 mai 2012, bienvenue sur Africa numéro 1, la radio africaine.
Le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki.
Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois le docteur Iveko Amaizo, il est consultant international en management des projets internationaux et bien sûr chroniqueur sur Africa numéro 1. Nous allons parler avec lui de l'Afrique dans l'entre-deux-tours de la présidentielle française, Sarkozy et Hollande. Est-ce que c'est du pareil au même ?
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Oui, Eric Digiter, bonjour.
Oui, Africa numéro 1.
Allô, oui, bonjour, Mokhtar, je vous appelle de Bruxelles.
Bonjour, je vous appelle parce que en Afrique, je ne sais pas si les présidents sont vraiment des présidents.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Mais avant de passer la parole à Iveko Amaizo, faisons un petit tour du côté du répondeur de la radio africaine.
Bonjour, Madame Eugénie, bonjour les invités. Madame Eugénie, ce matin j'ai écouté le débat de l'immigration. Sincèrement, je voulais appeler, je n'ai pas eu le temps de vous avoir au téléphone. Et moi, j'ai dit à les Africains, franchement, je ne sais pas quand on va comprendre que on va arrêter de se plaindre. Je ne sais pas. On est là longue des journées à se plaindre. J'ai écouté un monsieur aujourd'hui en train de crier, dit ouais, notre grand-parent est venu faire la guerre ici, nanana, nanana, la France ne veut pas de nous, parce que là, c'est nous qui payons, c'est nous on travaille, c'est nous on prend notre salaire pour nous payer. Je comprends pas, je sais pas. Quand on dit l'immigration, là, est-ce que les Africains, ils ont compris, quand on dit l'immigration, c'est pas écrit sur le front de l'immigré? Est-ce que quel blanc qui allait taper la porte de ton voisin pour dire, voilà, il y a un immigré qui est ici, et donne ta carte de séjour, faut rentrer chez toi? Non! Malgré que les blancs, les politiciens, ils vont dire l'immigration, ils vont dire comme ça. Parce que si tu as tes papiers, tu travailles, et pourquoi tu vas te plaindre? On entend se plaindre parce qu'on dit l'immigration, on se plaint. Vraiment, si on sait que vraiment ça nous fait mal, qu'on donne notre carte de chez nous, on rentre chez nous. Je ne comprends pas. L'immigration concerne tout le monde. Les Chinois, les Africains, les Arabes, les Italiens, les Américains, tout le monde. Quand on dit l'immigration, tout le monde est dans le même panier. C'est nous, les Arabes, les Africains, quand on dit l'immigration, on se sent visé. On est là, on se plaint, la France n'est pas de nous, la France a fait ça, parce qu'on parle de l'immigré. Non, écoutez, arrêtez, parce que là, vraiment, on est qu'à se sent heureux. Ce qui se passe en Russie, là, on est qu'à se dire, Dieu merci, on est en France. Qui a vu le documentaire qui se passe en Russie? On chasse les immigrés dans la rue pour les tuer. Ici, qui a vu un blanc qui est en train de chasser un immigré pour l'attraper, pour dire, voilà, on va te tuer, tu es un immigré?
Allô, Madame Eugénie, bonjour. Voilà, moi je suis Ivoirien et j'avais laissé un message sur le répondeur du JDA il y a quelques jours où je vous parlais des nounous ivoiriennes qui se battaient dans les parcs à cause des élections présidentielles. Voilà, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de se battre dans les rues d'Abidjan à cause de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Madame Eugénie, même si vous n'êtes pas ivoirienne, vous êtes une femme très intelligente. Je vous demande pardon, passez mon message. Qu'est-ce que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont d'une guerre, qui d'autres même ne travaillent pas, d'autres ont faim, d'autres sont malades, qu'est-ce qu'ils vont gagner si Sarkozy passait ou François Hollande passait? Eux, qui n'ont jamais, certains n'ont jamais vu même l'intérieur d'un avion, à quoi ça va leur servir? Ça c'est encore une fois, ils sont en train de montrer encore une fois, combien de fois l'Africain il est con et bête. On est sorti de la crise. On a un président qui est en train de faire tout pour aller de l'avant. Les gens, au lieu de chercher comment ils vont aller devant, ils sont en train de se battre en Afrique, Madame Eugénie, ils sont en train de se battre en Afrique, en Côte d'Ivoire, à cause de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais quel jour l'Africain sera mature? C'est quel jour? Je vous remercie, Madame Eugénie.
Bonjour, Madame Eugénie. Daniel Onema, de la République démocratique du Congo. Deux bonnes nouvelles pour l'Afrique aujourd'hui, et en particulier les Congolais de la République démocratique du Congo. La première nouvelle, c'est que votre chroniqueur, Yves Ekwe, excusez-moi si je prononce mal son nom, nous a fait quelque chose de magnifique ce matin, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Franchement, ces patriotes africains, ces grands messieurs, je lui dis bravo, bravo, bravo. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. C'est une bonne nouvelle que les intellectuels africains, les journalistes, les écrivains, tout le monde se mobilise pour la cause de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Africain ne se cache plus. L'Africain voudrait que l'Afrique soit totalement libérée. Quand on voit des journalistes comme Francis Salopo, qui organisent des débats tous les soirs sur notre antenne d'Afrique numéro 1, pour discuter, débattre de problèmes africains sans tabou. Le débat d'hier, d'ailleurs, en est l'exemple, sur les francs CFA. Tout ce qu'il fait, et tout ce que l'Afrique, l'Afrique numéro 1 fait, vous-même, Mamé Génie, avant même d'arriver à France, à partir de Libreville, vous en avez fait beaucoup. Et depuis que vous êtes ici, vous avez organisé même le 15e anniversaire d'Afrique numéro 1 à France. Vous continuez à faire. Que Dieu vous donne longue vie. Que vous continuez à travailler pour l'Afrique, pour notre Afrique. Nous avons toutes les potentialités nécessaires. Nous avons la matière grise. Nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour que l'Afrique sorte de la situation où elle est plongée aujourd'hui. En tout cas, Monsieur Yves, merci beaucoup pour votre chronique.
Bonjour Eugénie, bonjour chers amis du GDA. Oui, ce matin j'appelle pour un fait qui me tient quand même à cœur et qui est quand même un peu inquiétant. Oui, je parle justement de la Côte d'Ivoire. Et le président Addo est venu au pouvoir avec des solutions, mais voilà, depuis qu'il est là, c'est des massacres, c'est des attaques, c'est des vols, c'est n'importe quoi qui sévit. Il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui arrive. Il est devenu maintenant le président de la CEDEAO. J'ai l'impression que son mandat de la CEDEAO le préoccupe plus que son mandat qu'il a pour défendre son pays. Oui, adore la solution. Où sont tes solutions? Depuis que tu es là, c'est pas ça. On voit partout des attaques entre les FRC, des attaques entre ceci, des attaques de maisons, des villages chantiers qui sont brûlés, de ceci, de cela. Mais tes solutions, elles sont où, Addo? Oui, c'est bien de pouvoir défendre les autres, c'est bien de pouvoir être le président de la CEDEAO et d'avoir des idées, d'avoir des solutions pour la CEDEAO. Mais pour ton propre pays qui se brûle, pour ton propre pays où depuis un an que tu es au pouvoir, maintenant que Ouago n'est plus là, rien ne va, alors où sont tes solutions? Apporte-nous tes solutions pour qu'on puisse en sortir à dos. Ben oui, ça me rappelle quelqu'un d'autre, où on dit qui s'assemble se ressemble, qui après avoir passé 5 ans au pouvoir n'a rien foutu, et maintenant qu'il doit partir, trouve que là il a encore des solutions pour son pays. Donc arrêtez de tromper les gens, Addo. Oui, nous avons eu de l'espoir en toi, nous avons quand même nourri tous d'espoir, sachant que tu avais des solutions, tu allais sortir de la Côte d'Ivoire de tous ces problèmes, de tous ces gangrènes, de tous ces vols, de tous ces trucs. Mais c'est pas vrai. Depuis que tu es arrivé, c'est des massacres, c'est des villages entiers qui se brûlent. C'est ceci, on ne peut pas être tranquille, on ne peut pas vivre tranquille chez soi sans se faire agresser, on ne peut pas laisser ses cours sans se faire arracher ses sous. La raquette a doublé, pratiquement tout est encore contraire qu'autrefois. Alors mon cher Addo Solution, amène-nous ces solutions, parce que quand on entend de gauche à droite, le pays est pacifié, ceci, tout va bien, mais alors que c'est pas vrai.
Oui, je souhaite intervenir sur la crise au Mali. Ben, aujourd'hui, je viens d'entendre la CEDEAO demander l'envoi d'une force pour encadrer la transition au Mali. De grâce, on n'a pas besoin de cette CEDEAO pour encadrer notre transition. Surtout, le Mali a besoin. Depuis combien de temps les populations du Nord ont besoin d'aide pour de se libérer de ces terroristes qui sont allés s'installer dans le Nord? Que la CEDEAO, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, la sous-tutelle de notre pays, le Mali. Que la CEDEAO sache que le peuple malien va se dresser comme un seul homme pour l'occupation de notre territoire. Parce que nous, on avait besoin de la CEDEAO pour libérer notre pays des terroristes et des bandes armées. Mais on n'a pas besoin de la CEDEAO pour mettre notre pays sous tutelle. Donc, la CEDEAO n'est pas la bienvenue. On sait que c'est un organe au service de la France. Et cette CEDEAO n'a même pas honte de demander la négociation avec les MNLA. Donc, CEDEAO, tout le monde sait que c'est au service de la France qui a toujours été... Les autorités françaises ont toujours été la caution de cette rébellion au Mali. Donc que le peuple malien se mobilise détresse comme c'est un seul homme pour barrer la route à la CEDEAO, aux forces de la CEDEAO qui veulent venir diriger le Mali et non défendre l'intégrité du territoire du Mali.
Iveco Amaizo, bonjour.
Bonjour Eugénie.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce JDA. Alors aujourd'hui, mercredi 2 mai, les deux candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, vont s'affronter ce soir dans un débat télévisé. Et nous avons souhaité faire le point avec vous sur les questions majeures concernant l'Afrique et la France dans l'entre-deux-tours de la présidentielle française. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre gauche et droite sur la politique africaine de la France, pour être précis, Iveco Amaizo?
Je vous remercie. La politique africaine de la France, telle qu'elle est toujours exprimée, pose problème. Il y a une différence, bien sûr qu'il y en a eu une, mais elle est quand même minimale. En fait, il faut plutôt parler de la politique de la France en Afrique. À ce moment-là, on comprend mieux ce qui se passe. Il ne faut pas en priorité rechercher des avantages pour l'Afrique, d'ailleurs, mais des avantages pour la France. Et à ce moment-là, on comprend mieux les décisions qui ont été prises. Le règne de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, ce dernier ayant fait 14 ans d'ailleurs, tout ça, ça se ressemble étrangement en termes d'absence de soutien à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à des oppositions républicaines africaines, surtout si cela doit conduire à une alternance politique pacifique en Afrique. Ce qui s'est passé en fait, ces alternances politiques non souhaitées, parfois non maîtrisées directement ou indirectement par la France, ne peut qu'inverser les priorités, à savoir une gouvernance pour les Africains d'abord, pour la France ensuite, ou éventuellement. Et dès lors qu'il y a l'arrivée des pays émergents comme la Chine et autres, ben vous comprenez bien que l'intérêt de la France prime. Mais la proposition de François Hollande de créer une francophonie économique qui ne serait pas une refonte de la France-Afrique pourrait ouvrir des nouveaux espoirs pour le monde francophone africain. Par contre, je constate que la dissolution du franc CFA, de la communauté France-Afrique, n'est au programme ni de l'un, ni de l'autre, ni d'ailleurs des chefs d'État africains, ce qui est quand même curieux.
Oui, c'est assez curieux.
Et oui.
Alors, pour ce qui est de l'amélioration de la politique africaine de la France, est-ce qu'il y a une différence entre les deux candidats retenus pour le deuxième tour de cette présidentielle française?
Sur les candidats cette fois-ci, oui. En fait, il faut que les différences reposent sur des actes et moins sur des incantations. Je rappelle qu'il vaut mieux parler de la politique de la France en Afrique, je l'ai dit, pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que quand on parle de politique africaine, les Africains croient et pensent que c'est d'abord pour l'Afrique. Non, c'est d'abord pour la France.
Mmh.
Alors, Monsieur Hollande affiche un slogan de campagne très intéressant, le changement maintenant. Et Monsieur Sarkozy, lui, la France forte. Alors, appliquer ça à l'Afrique, pour les Africains non français, ceux qui ne votent donc pas, il est sûr que, dans leur grande majorité, c'est le changement maintenant qui les intéresse, et qui, ils souhaitent-ils, l'emporterait pour réduire éventuellement le niveau de pauvreté et aussi tenter de changer la physionomie du franc CFA, que le président sortant a soutenu 100%. Hein. Mais un nombre non négligeable d'Africains préférerait le statu quo, ce qui est aussi très bizarre. Dès lors qu'en catimini, ils profitent des largesses d'un système France-Afrique, soutenu par certains Africains d'ailleurs.
Mmh.
Alors passons aux autres, les Africains français, ceux qui peuvent voter et qui vont voter. Le calcul est beaucoup plus simple. Eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Qu'est-ce que eux peuvent avoir conservé ou pourraient conserver? Est-ce qu'ils ont pu obtenir une amélioration de leur mieux-être, emploi, logement, réduction des harcèlements aux faciès, des choses comme ça, sur le sol français? Et si effectivement ça s'est amélioré, bah écoutez, je pense qu'ils vont conserver celui qui remplace. Mais si ça s'est pas amélioré, ils pourraient revenir là-dessus, y compris ceux qui sont même dans le parti du président actuellement, Sarkozy. S'il y a lieu d'ailleurs, le changement risque, je pense, de l'emporter, puisque de manière générale, il y a quand même un ras-le-bol sur plusieurs sujets.
Mmh.
On n'a pas le temps de le développer ici. Alors quand vous prenez le mot France forte, ben, souvent en Afrique, ça promeut le statu quo en Afrique francophone. Alors qu'avec le changement maintenant, à la lumière même du discours de la Baule, de Mitterrand, ça a tendance un peu à vouloir changer ce qu'on appelle la contre-vérité des urnes en Afrique francophone. Donc il y a un pari. Est-ce que les gens vont adhérer? Je doute fort compte tenu des pratiques passées, hein, les Africains. Mais les candidats devraient clarifier leur proposition et je pense que le débat de ce soir pourrait y aider à enraciner les Africains en France, pour ceux qui y sont, et faire en sorte que ceux qui sont en Afrique soient aussi enracinés là-bas, en les aidant à enlever les dictatures ou les dirigeants qui sont fondés sur la contre-vérité des urnes.
Mmh. Iveka Maïso, est-ce que ce n'est pas le maintien ou le renforcement de la France-Afrique qui fait la différence entre les deux candidats retenus pour le second tour de cette élection présidentielle?
Écoutez, vous touchez là du doigt vraiment la profondeur du sujet. Compte tenu des annonces préélectorales et les réalisations post-électorales, de la gauche comme de la droite d'ailleurs, il faut tout vérifier sur pièce, il faut prendre acte de ce qui est dit, mais il faut vérifier sur pièce. Parce que, rappelez-vous, Mitterrand l'avait dit, qu'il changerait tout, et on a vu le résultat. Monsieur Sarkozy a dit la même chose, qu'il changerait la France-Afrique, et voilà. Alors, le bilan du candidat de la France forte, par rapport à la France-Afrique, puisque c'est ça votre question, ça se résume à des contentieux sur les Africains, et qui ne seraient pas suffisamment rentrés dans l'histoire, comme il a dit au Sénégal. Et en France, des attaques assez régulières contre les étrangers, l'islam, les minorités visibles de manière générale. Et ça favorise aussi l'amalgame. Et puis, écoutez, il y a eu les interventions militaires en Côte d'Ivoire et en Libye, qui en France sont toujours présentées comme un grand succès, mais sincèrement, la plupart des pays africains, et plus particulièrement francophones, ne sont pas du tout contents, et en tout cas ne l'interprètent pas du tout comme quelque chose d'intéressant. C'est une vraie intervention, certains vont jusqu'à la colonisation. Alors pourquoi tout ça? Mais pour préserver les intérêts de la France en Afrique. Et c'est là toute la différence. Et là, ça pose un problème, parce qu'à ce moment-là, les gens n'ont pas envie d'avoir quelque chose qui continue et qui se perdure. Et il y a aussi une grande irresponsabilité, parce que l'après-intervention, par exemple, dans le cas libyen, où les grandes injustices qu'il y a dans l'après-intervention de la Côte d'Ivoire ne sont pas résolues. Et là encore, les Africains doutent.
Alors, est-ce que la France-Afrique peut être éradiquée pour le prochain président français?
Éradiquer. Écoutez, tous, ils le disent. par exemple, je crois que le candidat Hollande a dit que les relations entre la France et l'Afrique ne reposeraient pas sur des usages inacceptables. Mmh. Il s'agit bien de la France-Afrique. C'est un humaniste, qu'on le veut ou non. Il va limiter les violations des droits humains dans le précaré francophone. Pourtant, François Mitterrand, qui avait envoyé Papa Madi, le surnom de son fils, qui est devenu l'ami des dictatures africaines, n'a rien changé au niveau concret. Certains même de journalistes africains étaient en prison pendant que Mitterrand est passé justement 81 à une grande victoire, et pourtant les gens n'ont pas été libérés. Donc je n'irai pas dans le détail là-dessus. Espérons peut-être que Kofi Nyamiam, qui est un conseiller spécial pour l'Afrique de François Hollande, ne tombe pas dans le piège de Jean-Pierre Cotte ou d'Alain Bockel ou Jean-Marie, je crois, Bockel plutôt, etc., qui tous ont voulu le départ de cette France-Afrique, et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose.
Yves Ekoamaizo, qu'est-ce que vous proposez comme une des mesures prioritaires qui pourraient contribuer à améliorer la relation entre la France et l'Afrique?
Alors là, on quitte le constat et peut-être même la critique pour essayer de faire des propositions. C'est très difficile parce que, vous savez, cette France-Afrique, c'est un système de servitude dans des réseaux ésotériques avec des évolutions mafieuses ici et là, sous couvert de la politique. Donc ce n'est pas une question de noir et blanc, c'est les deux. C'est pas une histoire de la vérité des urnes, c'est le contraire. Plus c'est ténébreux, plus c'est dans le noir, plus c'est caché, mieux ça se porte. Jusqu'à des ambassadeurs qui vont soutenir ce que eux-mêmes ont vu ne correspond pas à la vérité. Donc la France, de l'après 6 mai 2012, gagnerait à se distancier économiquement des dirigeants africains qui, justement, passent leur temps à diriger sur la base de cette contre-vérité des urnes et voient aussi ce qu'on appelle la vérité, ou plutôt l'absence de vérité des comptes, parce que c'est là aussi un autre problème. Comment se fait cette richesse en Afrique et comment elle se transmet ou pas vers les populations? Et le problème, c'est qu'ils ont besoin d'une force, et cette force militaire locale est entraînée par la force sur le budget souvent de l'aide au développement, qui pourrait d'ailleurs être utilisé autrement et mieux. Mmh, mmh. Donc on parle plutôt de changement à ce niveau-là, voire même à soutenir l'emploi en Afrique. Parce que si cet emploi était soutenu, beaucoup des problèmes de l'immigration dont parle Madame Le Pen, ou voire même les candidats d'ailleurs, pourraient se résoudre d'eux-mêmes. Les gens rentreraient et travailleront chez eux. Dès qu'il y a eu une meilleure démocratie au Bénin, par exemple, beaucoup de Béninois sont rentrés. Donc la France devrait donc supprimer, c'est ma proposition, l'aide aux militaires africains non républicains, qui dans leur grande majorité travaillent contre les citoyens africains. Et soutenir éventuellement aussi les partis de l'alternance, prenant la vérité des urnes et des comptes, parce que cela arrange la France-Afrique, et donc indirectement une certaine France. Mais voyez-vous, s'ils le font, c'est aussi cette France-Afrique qui finance indirectement certains partis politiques français. Donc comprenez bien, si les partis n'ont pas de budget, et il va falloir mettre en cause cette France-Afrique, voilà, la boucle est bouclée et on tourne un peu en rond.
Qui doivent voter les Français africains, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, si vous aviez un conseil, Yves Ekoamaizo?
difficile. Vous me demandez indirectement ce que je vais voter moi-même. Je ne vous dirai d'ailleurs pas.
C'est votre droit.
Je pense que les Français africains qui estiment que les partis politiques qui ont plutôt contribué à ne pas les enraciner en France ne doivent pas continuer leur route. Hein. Regardez aussi les partis politiques où la représentativité électorale des Africains, des Noirs n'est pas au rendez-vous. Regardez le Parlement français, où est-ce qu'ils sont? C'est des gens de la diversité. Bon, je parle même de l'Antilles, il y a beaucoup de Noirs aux Antilles, j'en ai pas parlé de diversité, ce sont des Français, depuis plusieurs années, où sont-ils représentés? Et à l'intérieur de tout ceci, les femmes noires, africaines, où sont-elles? Voilà, donc c'est tous ces éléments qui posent problème. Moi, je pense que il faut faire attention, parce que cette France aussi se tait sur un certain nombre de choses, récemment au Togo, des gens qui disent être dans une association, se font tabasser par des militaires, financés il y a quelques mois, années, par encore cette France, lors du 52e anniversaire de ce pays. Et tout ça ne peut plus passer sous silence. Alors, qui voter? Ben, je crois qu'il faut surtout réfléchir qui va passer aux actes.
Yves Guamaizo, pour conclure, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs de la radio africaine et du JDA?
Bon, écoutez, il faut voter pour le président français qui, avec ou sans bilan africain positif, propose de renforcer la vérité des urnes en Afrique. Et ça ne peut pas se faire sans soutenir la croissance africaine. Cette croissance africaine, qu'on le veut ou non, soutient la France. On l'a passée complètement sous silence dans cette campagne électorale, et pourtant, c'est cette Afrique, notamment francophone, d'où on tire le pétrole, d'où on tire l'uranium pour les centrales nucléaires françaises, et pourtant il n'y a pas une approche vraiment fondée sur la réciprocité qui permet à cette France aussi de tenir son rang. Donc il faut respecter les Africains et les Noirs, hommes comme femmes d'ailleurs, et tous les Africains d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je pense à nos frères des Antilles, pas soutenir les Africains serviles et dociles. Ce n'est d'ailleurs pas parce que le vote noir semble négligeable qu'il faut soutenir ou s'abstenir de voter blanc si le choix devient impossible entre les deux candidats.
Une dernière question, Yves Guamaizo. Alors ce soir, c'est le débat, on l'a dit, et tout le monde le sait, de ce soir, donc avec les deux candidats.
Oui.
C'est un débat entre deux personnalités ou deux programmes?
C'est les deux. Non, vous avez deux programmes, sauf que le programme du candidat président qui est candidat, M. Sarkozy, il est quand même plutôt connu. Une partie a déjà été délivrée pendant 5 ans, dont le bilan reste à faire, puisque apparemment, dans toute cette campagne, ce bilan n'a pas fondamentalement été fait. Maintenant, le candidat Hollande, lui, il a un programme, puisque ça fait des années qu'il est en train de le mûrir. Il a organisé des individus et des hommes pour justement les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Il croit, parce qu'il a un idéal, et il est en train de réussir un tour de force extraordinaire, c'est de ramener Madame Merkel et beaucoup, Monti, je dirais, en Italie, et bien d'autres encore dans l'Union Européenne, à comprendre qu'en économie, il n'y a aucune possibilité d'avancer sans une croissance. Et la croissance derrière, c'est de l'emploi. Et ce n'est pas n'importe quelle croissance uniquement au profit des riches. Donc je pense, fondamentalement, que le débat de ce soir, ce n'est pas entre un individu ou pas, ou des caractères ou pas, non. C'est des gens qui pensent qu'il faut peut-être augmenter légèrement la dépense, comme on dit en économie, sur une base keynésienne, pour faire que l'emploi reparte, que le pouvoir d'achat reparte, et que des gens, à partir de là, se mettent aussi à soutenir l'économie à partir de la consommation, ce qui est négligé puisqu'on parle d'austérité. Regardez la Grèce, regardez l'Espagne et bien d'autres encore. Voilà, je crois, le grand choix. Et ceux qui pensent que demain, ça peut leur permettre de retrouver un emploi, ceux qui ont perdu le pouvoir d'achat dans leur retraite, trouver un moyen de revivre et d'être digne, de pouvoir donner à manger à leurs petits-enfants, petites-filles ou petites-filles, je pense que le choix doit être assez clair.
Merci Yves Guamaizo.
C'est moi.
Et bonne à très journée. Bientôt. Au revoir.
Merci, bonne journée.
Merci mesdames, messieurs d'avoir écouté le journal des auditeurs sur Africa numéro 1. Je vous donne rendez-vous demain sur Africa numéro 1. Même heure, même fréquence.